Vous êtes sur Super Radio, toujours dans les cadres de la fête de la radio. 37 ans de Super Radio, ça fait énormément de personnes qu'on a envie d'interviewer. Donc du coup, moi j'ai la chance d'avoir le technicien de Super Radio qui s'appelle Jean-Marc Martin, à qui je vais demander de se présenter. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc Martin, j'ai un peu plus d'un demi-siècle. Ça fait à peu près une vingtaine d'années, même peut-être un peu plus, que je fréquente Super Radio. Y aller à l'époque, dans un premier temps bénévole, et puis d'environ depuis 13-14 ans, je suis employé maintenant effectivement à Super Radio.
Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de vie? Comment Jean-Marc Martin, il est né, qu'est-ce qu'il a fait, et voilà, comment il est arrivé à Super Radio?
Eh bien, je dirais que je suis effectivement passionné effectivement d'électronique depuis mon plus jeune âge, puisque je me souviens depuis l'âge de 12-13 ans, je commençais à fabriquer des petits récepteurs radio, des trucs comme ça, et que j'essayais par tous les moyens de capter des radios, même qui venaient de la Dominique, etc., etc. Je me souviens une fois, j'ai monté sur un manguier pour mettre des fils, pour pouvoir servir d'antenne, pour pouvoir capter la radio, notamment une radio qui était du côté de la Dominique.
Donc, sans le savoir, tu avais déjà une prédestination pour la radio.
Voilà. Et par la suite, dans mon parcours, j'ai eu effectivement à un moment l'occasion de devenir un DJ. Et puis, c'est à partir du DJ, effectivement, ça a un peu accentué l'idée de faire de la radio.
Et donc, ben, tu as eu l'occasion d'animer des soirées, voilà. Ça t'est venu
pas mal, effectivement, pas mal de mariages, effectivement. Au départ, comme ça, une fois, enfin, je me suis retrouvé dans une soirée en tant que technicien parce qu'il y avait eu un souci. Et puis, depuis, avec mes connaissances, on a fait pas mal de chemin. Et puis, par la suite, ça m'a permis de former même des jeunes dont je suis assez fier aujourd'hui. Donc, voilà. Et ensuite, dans l'animation, il y a eu un moment où celui avec qui j'animais avait acheté un petit émetteur. Il permettait, notamment à l'époque où le 22 mai n'était pas encore férié, de faire des journées genre Radio Negmaron, des trucs comme ça, à partir de cet émetteur. Et à partir de là, et par la suite, j'en ai monté encore trois autres. Je faisais ça de moi-même, donc voilà.
Et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Comment, tu as fait, je suppose que tu as passé ton bac. Je sais que tu as fait des activités physiques style handball, c'est ça? Je sais plus.
Oui, effectivement, j'ai joué au hand pendant un certain nombre d'années. J'ai aussi effectivement j'ai fait un CAP, un BEP d'électrotechnique. Et ensuite, au niveau de mon bac, malheureusement, à mon année de première, j'ai fait un grave accident où ma mâchoire était bloquée. À l'époque, il n'y avait pas de transport comme maintenant, parce que j'étais obligé de manger comme un bébé. Voilà, à l'époque, j'avais la mâchoire fracturée et j'ai dû laisser l'école. Par la suite, j'ai fait une formation à l'AFPA, qui est l'équivalent du bac, notamment en électronique grand public.
Et puis après, tu as travaillé, me semble.
J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé notamment toujours dans l'électronique, notamment à la librairie Antillaise à l'époque. Et ensuite, je suis entré à un magasin à Fort-de-France qui s'appelait Cantelec, où j'ai passé environ 23 ans à Cantelec, voilà. Donc, où on vendait des haut-parleurs, des composants électroniques.
C'était l'un des premiers magasins de Fort-de-France qui vendait tous les trucs électroniques, effectivement.
Oui, donc ça m'a permis en même temps de rencontrer pas mal de techniciens, justement.
Alors moi, je t'ai connu quand j'étais petite, que je venais de rentrer en Martinique. Je ne savais pas qu'un jour on allait se retrouver ailleurs. Tu ne dois pas te rappeler de moi, mais mes parents avaient un restaurant juste à côté du magasin.
Oui, je me souviens de ce restaurant à l'époque. Et ça m'a permis en même temps, dans ce magasin, de rencontrer pratiquement tous les techniciens qui travaillent en Martinique, puisque c'était le magasin où on se rendait quand on avait besoin de quelque chose. J'ai rencontré même pas mal de techniciens radio également. Ça m'a permis de rencontrer la plupart d'entre eux, voilà, qui ont travaillé en Martinique et qui travaillent encore, voilà, en tant que radio.
Est-ce que tu peux nous raconter comment finalement tu as réussi tu as rencontré Super Radio, moi, Radio Kayali à l'époque?
C'est vrai que je regrette de ne pas rencontrer Radio Kayali un peu plus tôt. J'ai eu l'occasion, mais ça ne s'était pas fait. J'ai rencontré Radio Kayali quand ils sont venus à Sedan. Et à partir de là, j'ai commencé un premier studio que j'avais fait. J'avais fait une petite modification d'un premier studio, notamment. Et ensuite, j'ai refait le studio, je crois, en 2005. Voilà, et à partir de là, effectivement, quelques années après, j'ai Cantelec ayant des soucis, donc ensuite, direction de Cadis m'a embauché, effectivement, à partir de là.
Alors, raconte-nous tes premières expériences radio, comment est-ce que... Je sais que tu es intervenu d'abord bénévolement sur les studios de radio avant de devenir salarié. Mais raconte-nous un peu les débuts, comment tu as vécu ça?
Les débuts à Super Radio ou bien...
À Radio Gali.
Ou bien la radio en général? La,
non, à Super Radio.
À Super Radio, bon, j'aime tout ce qui est bien fait. Au départ, effectivement, j'étais technicien. Ça a été amené par... je suis venu effectivement à Radio Gali à l'époque par Paul Le Mongo, qui m'a un peu demandé certains conseils pour certaines choses. Et c'est comme ça que
qui
j'ai
commencé. Qui était animateur à l'époque.
Voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai un moment intégré la radio où j'étais technicien notamment pour l'émission de Frédéric Tally qui s'appelait Culturama à l'époque. Mm-hmm. J'ai eu l'occasion de fabriquer un boîtier qui permettait des extérieurs. Je vois que c'est beaucoup plus facile de nos jours. Voilà. Voilà, effectivement, il fallait technicien pour pouvoir réaliser ce genre de choses. Et ensuite, le fil en aiguille, la passion revenant, puisque dans ma jeunesse, j'ai voulu monter une radio fermée entre mes 15 et 18 ans.
Et qu'est-ce qui a été le frein qui fait que tu n'as pas, tu n'es pas allé au bout?
Ben, je suis pas allé au bout parce que, en fait, j'avais avec des amis, on était sur le point de monter une association. Et on avait rencontré des personnes, effectivement, qui étaient un peu plus grands que nous, qui avaient monté une association qui était un peu culturelle. On les avait rejoints. Et malheureusement, je crois que ça a été notre malheur parce que à partir d'un moment où on les a rejoints, ça s'est dissous et puis c'est devenu compliqué après. Et ensuite, moi, j'ai fait mes études et à partir de là, c'était devenu un peu plus compliqué. Voilà.
Tu passes à autre chose.
Je suis passé à autre chose. Voilà.
Donc, qu'est-ce qui t'a plu à Super Radio? Quand tu es arrivé, l'organisation, voilà. Est-ce que c'est un endroit où tu t'es senti bien tout de suite ou est-ce que c'est un endroit où tu as appris des choses? Mais comment tu as vécu cette première expérience radiophonique?
Oui, je me sentais bien puisque j'étais habitué à l'époque avec...
tous les gens qui étaient déjà là.
Tous les gens qui étaient là. Et ensuite, je suis un peu entré dans le conseil d'administration quand M. Perrault est revenu. Puisque quand je suis arrivé, M. Perrault, effectivement, pour des raisons diverses, n'était pas là. Et à ce moment-là, il me dit que d'entrer dans le conseil d'administration parce qu'il fallait réorganiser, sinon on aurait fermé. Mmh. Et au départ, j'étais un peu sceptique parce que quand j'ai vu le déficit qu'il y avait, je me dis, waouh, comment on va faire? Il m'a dit, on va réussir. C'est quelqu'un d'optimiste de nature. Effectivement, on s'est battu, il fallait tout réorganiser.
Tout repenser.
Tout repenser. Et à partir de là, effectivement, on a travaillé, beaucoup travaillé pour que la radio retrouve...
Et sur cette tranche-là, tu as été le premier salarié de Super Radio, finalement. Tu as été le premier salarié de Cadis aussi, quand
je suis arrivé. Oui, voilà, effectivement. Bon, malheureusement, ça ne me dérangeait pas à l'époque de travailler, de faire du bénévolat, notamment pour le soir. Et j'ai été employé, fois que malheureusement, la boîte a fermé. Et à ce moment-là, je suis devenu l'employé de Cadis, voilà.
Alors, tu as vécu la période Saint-Anaise, effectivement, sans monsieur Perrault à un moment, avec la restructuration de monsieur Perrault. Tu as vécu la version où finalement, à un moment, on a eu des permanents à la radio, mais qui travaillaient pour la mairie. Ça, c'était une belle époque. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu voilà toute la partie, toute cette partie-là, que je ne maîtrise pas trop, du coup?
Non, en fait, dans la partie où il y avait des employés,
Raphaël et puis...
les employés mm-hmm. de la ville, j'étais pas là régulièrement.
Ah, j'étais... tu n'étais pas encore arrivé là régulièrement.
Non, j'étais là, mais je pouvais être là que le soir parce que je travaillais en journée
encore à Cantelec.
Donc, je travaillais le soir avec Frédéric Tally, notamment, le mardi soir pour son émission Culturama. Donc, voilà, c'est surtout dans cette période-là. Et puis, certains week-ends où je passais, où... De temps en temps, je rencontrais notamment Jean-Marc Lude.
Ah ouais, Jean-Marc Lude, ça c'est une belle époque, l'époque où il passait ses soirées à Super Radio. C'était assez particulier.
Voilà.
Est-ce que pour toi, la radio, c'est un outil important dans notre société?
Oui, c'est important parce que la radio, je dirais que c'est le média le plus réactif. Certes, maintenant, de nos jours, il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, souvent, c'est difficile de vérifier une information. Donc, souvent, on a les informations, mais c'est pas toujours...
On peut avoir beaucoup de fakes.
Exactement. Donc, mais la radio, je pense que c'est le média le plus réactif qui permet d'avoir...
Le plus objectif aussi, finalement.
Donc, voilà. Donc, je pense que la radio gardera quand même une bonne place dans le cœur des Martiniquais.
Est-ce que pour toi, donne-nous ton avis sur l'évolution, maintenant qu'on est quasiment veille de DAB+, donne-nous un peu ton avis sur l'évolution de la radio en général. Comment toi, tu perçois ça? Toi qui as connu l'époque des émetteurs où on les construisait et puis on essayait de faire quelque chose, à aujourd'hui, la structuration et puis le fait que bientôt, on va devoir changer sans doute de format.
Oui, en fait, la radio, effectivement, bon, enfin, je connais un peu la radio de la fameuse AM, la modulation d'amplitude, puisque bon, étant technicien, j'ai connu un petit peu tout. Et ensuite, c'est la FM, à mon avis, qui a vraiment permis de développer la radio, puisqu'on avait un son de meilleure qualité, puisque je rappelle que la AM a un son qui est normalement adapté pour la voix, donc qui était au départ que pour des informations notamment, pas vraiment adapté pour la musique. Et la FM a permis de rapprocher effectivement la qualité musicale de ce qu'on peut écouter éventuellement de disque. Effectivement, ça a permis d'améliorer la qualité. Le DAB+ va permettre encore d'aller encore plus loin. Effectivement, on ira sur une autre bande de fréquence. Ça obligera à changer de poste, aussi bien d'émetteur que de récepteur. Et ça permettra encore d'aller encore plus loin puisqu'on aura un son de qualité CD. Donc, on aura une qualité qui est encore meilleure. Bon, bien sûr, la qualité s'est encore améliorée maintenant au niveau des enregistrements, mais ça nous permettra d'avoir un son d'une qualité CD qui sera meilleure et qui permettra également, vu comment le système est pensé, permettra de ne pas avoir de ce qu'on appelle des interfacts, c'est-à-dire que tu auras des baisses de puissance, tout ça. Donc, le système est fait de sorte que tu as toujours la même qualité, quel que soit quand tu roules, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Contrairement à la FM où des fois il y a des endroits où tu ne vas pas capter convenablement, etc. Donc ça passera d'un émetteur à un autre sans que tu te rendes compte.
Est-ce que pour toi finalement la DAB+ à laquelle on va finalement pas échapper, est-ce que sur un territoire comme celui de la Martinique, tu penses que c'est ça vaut le détour?
Ça dépend de quel côté on se trouve. Si on se trouve effectivement du côté du gouvernement, pour lui, ce serait mieux d'avoir effectivement des sites avec des partenaires bien précis pour pouvoir faire l'émission, mais ça obligera que les radios se réunissent. C'est-à-dire que les radios vont perdre leur indépendance. Quand on regarde que 98% des radios Martinique émettent d'eux-mêmes, ce sera compliqué pour eux de revenir à un regroupement où il faut payer les émissions, etc. Ce sera très compliqué, notamment pour les radios associatives. Par contre, à mon avis, un format qui est un format voisin, le DRM+, qui malheureusement n'a pas été retenu en France, serait plus adapté, notamment pour les radios, parce que ça permettrait d'avoir une radio sur une fréquence. Malheureusement, ce n'est pas le format retenu, donc ce sera dommage, effectivement. Ce format aura permis, parce que ça se rapproche de la FM un peu mieux que la FM.
La transition est moins compliquée, en fait, sur ce que tu
dis. Ce serait moins compliqué, parce qu'on peut avoir les deux dans la FM, et ça permettrait, effectivement, d'avoir son propre émetteur, ce que je pense que beaucoup de radios Martinique préfèrent. Voilà.
Bon, alors maintenant, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur l'évolution de Super Radio? Maintenant que ça fait, on va dire, une vingtaine d'années que tu nous côtoies.
Oui, effectivement. Bon, je sais que ça s'est amélioré, notamment dans la partie technique, puisque j'y ai contribué, effectivement, notamment avec M. Perrault. Souvent, je lui confronte mes idées. Et il me dit, effectivement, ça peut être bien, mais il me donne des idées et on travaille là-dessus. Par exemple, je prends l'idée du studio ici. Il m'a dit qu'il voudrait un studio modulaire. On a travaillé un peu dessus. Ben, j'ai fait certaines choses. Je pense que je peux encore améliorer pas mal de choses. À mon avis, une fois terminé, ce sera un beau studio. Et puis, j'espère qu'il y aura d'autres évolutions, bon, notamment techniques, que je, pour l'instant, ne préfère ne pas en parler. Voilà.
Et je vais quand même te poser une question importante. Est-ce que tu es, à ton poste, est-ce que tu es heureux de faire partie de cette radio?
Oui, effectivement. Bon, j'ai toujours eu envie dans ma jeunesse de faire de la radio. J'avoue que j'étais un grand timide, mais comme pas possible, ça a été mon souci, notamment en classe, où j'étais toujours bon en écrit, mais à l'oral, vraiment, c'est quelqu'un qui avait peur de parler. Et la radio, je pense déjà m'a aidé un peu, effectivement.
À t'ouvrir aux autres, en fait?
À m'ouvrir aux autres. Et je pense qu'effectivement, je me sens bien dans le boulot où je travaille, donc voilà.
Et est-ce que la radio, ça t'a permis de te sentir au mieux, c'est-à-dire, est-ce que tu trouves que ça t'a permis d'évoluer en tant que personne?
je pense que je... Enfin, si, ça m'a permis d'évoluer en tant que personne. Bon, mais bon, on est dans le milieu associatif. C'est sûr que j'aurais aimé gagner un peu plus.
Voilà. Non, mais tu as le droit de le dire, gagner un peu plus.
Oui, mais bon, pour l'instant, je sais que je connais les conditions de la radio, puisque voilà, donc... c'est comme ça et on fait avec. Donc du moment
non, mais
que
il faut que tu nous la dises pour que moi je me batte pour que tu gagnes plus.
Du moment qu'on au moins on essaie d'équilibrer les dépenses et les recettes
ouais.
À la maison, donc voilà.
Bah. Est-ce qu'on a tout dit? Parce que du coup, c'est vrai que tu nous as apporté de belles informations sur les parties techniques, parce que je me rends compte que notre jeunesse, franchement, c'est du chinois, les parties techniques radio. Quand, pour que je puisse expliquer est-ce que c'est qu'une radio, je suis obligée de partir du champ de la communication, dire il y a un émetteur, un récepteur, et voilà comment ça se passe. Et je me rends compte que cette génération-là, dans quelques années, ça ne sera pas parlant pour eux.
Non, enfin, la jeunesse actuellement a des réflexes. Tu donnes à un jeune maintenant, tu lui dis que bon, 10 plus 5, la première chose qu'il va faire, il va prendre une calculatrice.
Il va même pas essayer de le calculer.
Il va même pas essayer de le calculer. Donc, c'est des réflexes qu'ils ont en fait. Parce qu'ils savent le faire, mais ils ont le réflexe de prendre la calculatrice avant. Parce que pour eux, faire un calcul...
C'est la loi du moindre effort, comme voilà, je dis donc, tout le temps.
C'est pas qu'ils ne savent pas le faire, ils savent le faire. Donc, voilà. Donc, tandis que notre génération, effectivement, on nous obligeait un peu à faire un peu de calcul mental. Parce qu'on disait que, certes, il faut prendre la calculatrice, mais il suffit que de faire une erreur en tapant, tu te retrouves avec une erreur. Tandis que quand tu sais à peu près qu'est-ce que tu devrais trouver, à ce moment-là, tu te retrouves. Voilà.
En fait, on était dans une génération où, comme on n'avait pas les moyens, on était obligé d'inventer des concepts. C'est comme moi qui interviens en milieu carcéral, je suis impressionnée de tout ce que les détenus arrivent à faire avec peu. Ils arrivent à faire du pain en utilisant deux cuiseurs. Moi, je n'aurais pas pensé qu'on pouvait créer un four comme ça. Mais quand ils me l'expliquent, c'est tellement logique que je me dis « ouais, c'est vrai ».
Oui, parce que de nos jours, c'est vrai qu'on a pratiquement tout qui est fait. Mais pareil, moi, quand j'avais 12-13 ans, il y a un truc que j'aimais énormément, du riz au four, tout simplement. À l'époque, on n'avait pas les moyens d'avoir un four. Mais figure-toi que j'ai fabriqué un four, tout simplement.
C'est facile à faire, un four.
Oui, puisque en récupérant tout simplement une coque métallique qui est fermée, tout simplement, et tout simplement sur du charbon, ça fermait un four, parce qu'une fois que c'était fermé...
Ouais, comme le four à pizza, en fait, c'est
voilà,
le même principe.
Donc, c'était le même principe. Donc, depuis cette époque, effectivement, je bricole énormément... aussi bien électronique hein, que dans le bois, tout ça. Donc, voilà. Donc...
Mais je sais pas, avant, les gamins, ils étaient scouts. Ils apprenaient à faire du fake de pierre. Je ne suis pas
oui,
sûr qu'on arrive à faire
à
ça.
À mon avis, quand on a peu de moyens,
on apprend plus.
On devient plus inventif. Je me suis rendu compte, effectivement, à l'époque, on avait très peu de moyens et j'arrivais à faire des choses. Et pourtant, maintenant, de nos jours, je suis beaucoup plus outillé et c'est pas pour autant que je suis meilleur sur certaines choses. C'est vrai que ça facilite les choses. Mais. Quand on n'avait pas les outils, on essayait d'en fabriquer pour pouvoir s'adapter. Donc voilà.
Bon, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu avais un truc à rajouter?
Je vais rajouter l'anecdote, effectivement, de Super Radio à l'époque où on devait faire les 20 ans.
Ah ouais?
Effectivement, c'est dans une période où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour pouvoir faire un direct pour cela. Dans un premier temps, M. Perrault a décidé de faire les 20 ans.
Avec un podium.
Avec un podium. Et il fallait le mettre en direct. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent Sainte-Anne. On se trouvait du côté de l'ancienne MJC. Qui
en face du cimetière,
quasiment. Non, mais même pas. Même pas.
En face de la Pointe-Marin, quasiment.
C'est après l'école maternelle, juste avant l'école maternelle, à la Pointe-Marin, l'entrée de la Pointe-Marin. Et le podium se trouve à l'entrée pour aller vers Caritan, au niveau du marché.
Il faut dépasser, voilà. Il faut dépasser la mairie et continuer.
Ouais. Monsieur Perrault me dit, on va tirer un câble. Parce qu'à l'époque du marin, effectivement, il tirait un câble. Il faisait leur direct à partir de ça. Je dis oui, un
ça
câble.
Ça fait beaucoup de kilomètres. Hein.
Non, pas un kilomètre. Non, ça fait un petit peu moins qu'un kilomètre. Je dis waouh, tirer du câble, ça fait quand même pas mal de câbles à tirer. Effectivement, bon, je dis que bon, en regardant, effectivement, je pense qu'il vaudra à peu près un kilomètre de câble. Mais pour moi, ça ne se fera pas. Effectivement, je ne sais pas comment il a fait. Il arrive avec 4 rouleaux de 300 mètres.
Il les a achetés comme d'habitude. Hein.
Donc voilà. Et on s'arrange effectivement avec un ami électricien. On fait passer le câble.
On monte sous les poteaux.
Sur les poteaux. même si tout. Enfin, on fait passer le câble en journée, parce qu'on est obligé de le faire en journée. Et certaines fois le soir. Et il y a certains câblages, certains branchements, parce que pour accorder les différents rouleaux entre eux, il fallait. Souvent, on le faisait le soir. Parce que c'est à ce moment-là où moi, j'avais cette possibilité, puisque je travaillais encore à Fort-de-France. Et l'un des soirs, je suis sur l'un des poteaux en face au niveau de la mairie de Sainte-Anne.
Ah, j'ai envie de ça, l'accident.
Ouais, voilà. Et je vois, j'entends une moto qui arrive au loin. Je dis, c'est bizarre. Il va pas s'arrêter au stop. Et en même temps, comme moi étant sur le poteau, je vois l'arrivée de la moto.
Je vois une voiture
qui arrive en même temps. Mais eux, ils ne voient pas la voiture. Puisque, voilà. Et la voiture arrive un petit peu avant. Le gars a forcé. Il ne s'est pas arrêté au stop. Il a essayé de passer sur les côtés de la voiture. Et il se retrouve effectivement
au sol.
Il se retrouve au sol en faisant un accident.
Et toi, tu as assisté à tout ça de ton pilote.
Oui, du pilote. Je vois le gars où sa jambe est complètement à l'envers.
Voilà. Ah oui, c'est effrayant comme truc.
C'est effrayant, effectivement. Bon, je termine mon câblage, tout ça. Bon, on descend, bon, pas de problème. Les secours arrivent, tout ça. Bon, on termine le câblage un autre jour, pas de problème. Et toujours sous ce même podium. Donc, on fait nos essais jusqu'à là. Pas de problème. On a fait nos essais la veille, donc la partie technique, moi avec Paul.
Opérationnel.
Monsieur Perrault était en studio, on a fait quelques essais. Ça fonctionne très bien, pas de souci. Et ce jour-là, effectivement, dans la même période, on avait des personnes, normalement, parce qu'il y avait une répartition des tâches, il y avait des personnes qui devaient s'occuper de la préparation du repas. Donc, il fallait nettoyer 3 caisses de poulet. Et finalement, les personnes qui devaient s'en occuper, on ne les voit pas. Donc, il y avait quelqu'un qui devait s'occuper de la cuisson. Il nous dit, ouais, mais il est 10 heures, je ne vois toujours pas. Et on se rend compte que la personne qui devait s'en occuper, il ne répond plus au téléphone.
Il a disparu.
Il a
disparu.
Donc, on se retrouve, moi avec Paul, à aller récupérer de nouveau.
Et à faire la cuisson.
J'étais en congé ce jour-là, à nettoyer, assaisonner, pour apporter pour celui qui devait cuire. Donc, effectivement, on a eu beaucoup de boulot ce jour-là.
Voilà. Je me rappelle que ça avait été un super succès parce qu'on avait reçu Valéjo, on avait un groupe en live.
Parce qu'en même temps, on avait reçu...
Je ne sais plus comment il s'appelait, le Guadeloupéen, le beau copain de Catherine, dont tout le monde aimait. Là. Tu sais, Catherine, il a un bon copain, ils sont toujours en tandem. C'était lui l'invité sur le podium, j'ai oublié son nom.
C'était Riel Limit, puisque j'étais là.
Ouais, Riel Limit, voilà.
Puisqu'il y avait effectivement Alex Catherine.
Alex Catherine.
Et
ça avait été une super manifestation, je me rappelle.
Oui,
nous avait donné beaucoup, beaucoup de boulot, je me rappelle.
Oui, Alex Catherine et Richard Bierman.
Voilà, Bierman, je cherchais son nom, Richard Bierman.
Richard Bierman, c'est un podium qui avait un gros succès. Parce qu'on
il y avait eu beaucoup de gens, on avait eu beaucoup de cadeaux, on avait balancé des cadeaux dans la foule. Le groupe Annette nous avait bien suivi aussi sur ce coup-là.
Voilà, il y avait énormément de monde, donc c'était un super podium, je me rappelle.
On avait offert des trophées, il y a des gens qui ont leurs trophées qui sont très contents de les avoir.
Donc, bientôt, il y aura les 40 ans, c'est ça?
Ben, de toute manière, on a 37 ans, donc dans 2 ans. Ben oui, on va faire une méga fête cette fois-ci. On va pas faire un podium, on va faire une soirée dansante en espérant qu'il n'y aura pas de Covid dans les parages. Bon, en tout cas, pour cette année, on va déjà inaugurer notre studio Jean-Marc Martin. Et puis, dans 2 ans, on va faire la fiesta.
Voilà.
Bon, eh bien, vous êtes sur Super Radio. Vous avez écouté Jean-Marc Martin, qu'on appelle le plus souvent Marcus sur Super Radio, qui est toujours le technicien, en tout cas, qui fait tous mes enregistrements et qui porte l'histoire de Super Radio et qui est celui qui a construit le studio d'où on vous parle. J'espère que vous avez pris note et que vous passez un très bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous joindre au 05 96 76 27 27.